RMC cours numéro 1.
Kylian Vérov.
Salut tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de Rafa, enfin du nouveau Rafa. Après l'ère Rafael Nadal, les Espagnols n'ont pas eu à attendre trop longtemps avant d'avoir un nouveau champion à idolâtrer avec Carlos Alcaraz. Et voilà qu'un nouveau nom émerge déjà jusqu'à faire vibrer les foules ces dernières semaines. À 19 ans, il a tout simplement gagné plus de 500 places au classement ATP en un an. Vous avez dit pépite, installez-vous, on vous présente Rafael Rodar.
RMC cours numéro 1.
Le portrait de la semaine.
Avec moi le plus espagnol des consultants tennis de cette radio. Il est habillé en terre battue.
En terre battue,
avec un petit pull terre battue. Yoann Bredov, bonjour.
J'ai grandi sur terre, comme tout bon espagnol. Salut Kylian Vérov, salut à tous.
Ça te va ravir cette Merci. Couleur terre battue. Et pour ce deuxième épisode des portraits de la semaine, on a la chance, que dis-je, le privilège d'accueillir le GOAT du tennis sur RMC. Il nous a vendu les mérites de Rafael Rodar tout le week-end. Monsieur Eric Salio, bonjour Eric.
Salut les gars, ravi de participer à votre nouveau podcast. Il paraît qu'il cartonne déjà, on m'a dit. Hein.
Ouais.
Attends, on est là, on arrive, on fait du chiffre.
Ouais. Le portrait de Jerry Lechka, bien marché.
Du chiffre, voilà. Ils ont que ça à la bouche, faire du chiffre.
Mais non, on vend de l'émotion également.
J'attends.
Tu l'aimes bien cette petite couleur terre battue? Tu trouves qu'elle va bien, autant dire.
Magnifique, en plus sans marque, donc c'est parfait pour la télé.
Exactement. Contrairement à toi.
Oui. Contrairement à moi.
Johan, Eric, c'est le jeune joueur à suivre en ce moment, celui qui est en train d'exploser cette saison, Rafael Rodar. Johan, je te laisse le privilège de commencer.
Ouais, et finaliste au Challenger de Canberra en début de saison. Il sort des qualifications à l'Open d'Australie pour son premier tournoi du Grand Chelem où il passe un tour contre Sakamoto avant de s'incliner contre Menchik. Et c'est également à Miami qu'il a brillé en qualif avant de remporter deux rencontres face à Hanfmann et Vukic. Mais... donc, on le disait, c'est surtout sur terre qu'il a définitivement passé un cap. Cette demi-finale, donc à Barcelone, où il bat Munar, Hugo Carabelli, Nori, avant de subir la loi d'Arthur Fils. Pourtant, l'Espagnol avait la pression après le forfait de Carlos Alcaraz. C'est sur lui que reposaient les espoirs ibériques quelques jours après son premier titre en pro à Marrakech. Au Maroc, ce sont Lajovic, Marac, Muller, Hugo Carabelli et Trungeletti qui sont tombés sous les coups surpuissants de l'Espagnol qui est entré alors dans les 100 premiers mondiaux. Le voici désormais proche du top 40, pas loin d'un statut de tête de série pour Roland.
On embrasse Hugo Carabelli hein, qui a dû se farcir deux fois de suite, notre ami Rafael Rodar. Eric, Johan parlait de la puissance de l'Espagnol. Tony Nadal en a d'ailleurs parlé aussi. Il a affirmé qu'il frappait plus fort qu'un certain Carlos Alcaraz. C'est un joueur qui a quand même peu de défauts dans son jeu.
Il est impressionnant, avec un gabarit un peu étonnant, parce qu'il est très grand, je crois que c'est 1,91, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de muscle. C'est
longiligne.
Très longiligne, et malgré ça, il arrive à décocher des frappes surpuissantes. Alors, moi, j'ai l'impression que parfois, que, côté coup droit notamment, je revois un peu Juan Martín del Potro, la poutre, avec des sacoches impressionnantes. Mais surtout, ce qui me bluffe, c'est ce timing en fond de court. Il est dur à prendre de vitesse et on l'a vu samedi en demi-finale à Barcelone. Arthur s'est cassé les dents pendant une heure. Hein. Il était le premier surpris parce que, en fait, il le découvrait. Et c'est toujours intriguant de découvrir la qualité de balle d'un mec. Et là, pendant une heure, il ne savait pas quoi faire. Et il a fallu que l'autre baisse un peu de régime et heureusement, il manque un peu de muscle. Et on l'a vu à la fin, il commençait à cramper. Mais ouais, c'est un garçon qui est surprenant, mais je ne suis pas étonné parce que je suis abonné à quelques comptes Twitter d'espagnol et tu parlais de Canberra, passez-moi l'expression, déjà, ils en avaient plein la bouche. Quoi. Ouais. Ils savaient que c'était un mec qui allait exploser, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi vite très fort. Quoi.
Donc tu valides la déclate de Tony Nadal, qui tape plus fort que Carlos Alcaraz, ou alors c'est un effet d'instant et de surprise peut-être?
Alors j'ai envie de m'en rendre compte au bord du court. Parce qu'il y a toujours un différentiel entre ce que tu vois à la télé et ce que tu ressens au bord du court. Et on a la chance dans ce métier de pouvoir voir des matchs parfois au bord du court. Rodar, pour l'instant, pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc j'ai envie de voir. Mais Alcaraz, c'est plus sec, j'ai l'impression. Alors que Rodar, j'ai l'impression qu'il peut t'en envoyer plusieurs à la file, tu vois, avec la même lourdeur. Et ça c'est bluffant.
Eric, ce titre à Marrakech, il lui a permis de rentrer dans l'histoire du sport espagnol en faisant quand même mieux que Nadal et Alcaraz notamment.
Oui, parce qu'on a refait les recherches. Il gagne son premier titre à sa 7e tentative. Et ça, c'est bluffant, parce que Nadal a dû attendre longtemps. Alors, Nadal faisait des plus gros tournois,
ouais,
peut-être.
C'est ça.
Mais moi, j'ai une pensée émue pour Alejandro Davidovich Fokina. Mais non, mais il est combien là? Il est 15, 16 ou 17, je ne sais pas.
Il est 24, je crois, mais il est numéro 2 espagnol.
Numéro Fokina n'a toujours pas gagné le moindre titre. J'ai une pensée aussi émue pour Julien Beneteau, qui a perdu 10 finales. Tu vois, lui, bingo, à sa 7e tentative. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'au moment de conclure, bah, le bras ne tremble pas. C'est remarquable. Et ça reste dans les stades de l'ATP, bien sûr.
Et ils ne sont pas beaucoup en Espagne à avoir remporté aussi un titre avant l'âge de 20 ans. Ils sont seulement 5 à y être parvenus. Rafael Nadal, évidemment. Carlos Alcaraz, bien sûr. Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero. Et plus dur, parce qu'on a joué à ce jeu, c'est Tommy Robredo aussi qui a remporté.
Ouf, heureusement que tu as Robredo, sinon je t'aurais dit bah, il va finir numéro 1.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. 4 anciens numéro 1 mondiaux et un ex-5e mondial, parce que Robredo a quand même été 5e mondial.
Oui, on aurait tendance à l'oublier.
Ouais, c'est ça. Autant dire que cela n'annonce que du bon pour Raphaël Rodard.
Présentons donc celui qui est le plus jeune joueur du top 100, leader de la génération 2006 avec Joao Fonseca, Johan.
Déjà, c'est un vrai madrilène, pur jus, ville dans laquelle il est né, il a grandi, il a commencé le tennis très jeune, dès l'âge de 4 ans sur les cours du Chamartín Tennis Club. Comme Martin Landalus, aussi un espoir
c'est
espagnol.
Tout près de Bernabéu, je crois, le Chamartín.
Exactement, ouais, ouais. Fan du Real Madrid, évidemment. Ouais. Raphaël Rodard, autre espoir, hein, je le disais, Landalus du tennis espagnol. Il a aussi pratiqué le football, qu'il a arrêté à l'adolescence pour se consacrer à la petite balle jaune. Bien lui en a pris au petit Rafa, qui allait tous les ans dans les tribunes du Masters 1000 de Madrid, vibrer devant les exploits de ses idoles, dont évidemment Raphaël Nadal. D'ailleurs, ne voyez aucun lien avec Nadal concernant le patronyme Raphaël, il s'agit juste d'un hommage à son grand-père et à son arrière-grand-père qui se prénommaient tous les deux Raphaël. Toujours est-il que Rodard s'amuse encore et toujours du surnom Rafa, bien évidemment.
Oui, il est un peu prédestiné quand même. Il lui restait donc le plus dur, se faire un nom, Johan, dans le tennis, et il a très vite marqué les esprits.
En brillant chez les juniors, au point d'être invité aux qualifications du Challenger de Madrid à 16 ans à peine, où il s'incline sèchement et logiquement contre le 337e mondial à l'époque. Ses premiers coups d'éclat arrivent en 2024 avec un quart de finale à Vic avant d'atteindre les quarts de finale de Wimbledon Junior. S'ensuit une finale à Denia sur le circuit ETF, puis il s'adjuge l'US Open Junior en disposant en finale de Nikolaj Butkov-Kjær, le Norvégien, au Super Tiebreak.
Et cette performance, elle va revenir aux oreilles d'un certain Raphaël Nadal.
Eh oui, le Mallorcain qui garde évidemment un œil attentif sur la jeune génération et qui a bien évidemment suivi le parcours du 4e mondial chez les juniors. Rodard a d'ailleurs vécu un grand moment en cette fin d'année 2024. C'était lors des Next Gen ATP Finals, le Masters des moins de 22 ans, où il était sparring partner. Il a rencontré la légende, le grand Rafa, qui l'a félicité pour son titre à l'US Open Junior. Une consécration pour le petit Rafa, on va l'appeler comme ça, de pouvoir être au contact de celui qu'il a toujours admiré.
Et c'est pas rien, Eric, d'être à ce point consacré par Raphaël Nadal aussi jeune.
Bah, c'est une évidence. Hein. Ça a été l'idole de tous les joueurs espagnols, Rafa, en sachant que l'empreinte qu'il a laissée ou qu'il laisse à Roland-Garros, personne ne pourra l'égaler. Mais c'est là qu'on voit qu'ils ont les Espagnols ont eu de la chance d'avoir une sorte de guide spirituel comme ça pour les jeunes. Nous, c'est vrai que ça a peut-être manqué en France. On a connu une période de disette, même si on a eu les quatre mousquetaires, mais c'est vrai que là, une fois qu'ils ont pris leur retraite, on a souffert. Là, on revit un peu avec Arthur Fils, mais ouais, c'est un role model, quoi. C'est génial pour le tennis espagnol d'avoir des guides comme ça. Et on parle de Rafa, mais je pense qu'Alcaraz est aussi un guide pour les jeunes maintenant.
Puis on sait à quel point les Espagnols ont tendance à idolâtrer leurs légendes et leurs champions. Johan, le passage à l'année 2025 pour Raphaël Rodard est celui du choix de carrière, choisir de se lancer directement chez les pros ou alors à l'université.
Et il choisit les études.
C'est rare, hein,
Raphaël Rodard. Très rare, en effet. Et il choisit de s'exiler, alors toujours en lien avec le tennis, il s'exile à l'université de Virginie et reçoit même le titre de rookie de l'année, rookie national de l'année, après avoir fini deuxième du classement ITA, le classement des universités américaines, derrière Michael Chang. Et là, il peut profiter de l'ATP Next Gen Accelerator. En fait, c'est un programme qui permet aux jeunes d'accéder plus facilement au circuit Challenger. Il va bien en profiter en remportant 3 en 2025 pour passer de la 911e place mondiale à la 168e en fin d'année. Il participe d'ailleurs au Master Next Gen où il gagne notamment des matchs contre Lennart Tien et Martin Landalus.
Et puis forcément, ça le lance sur une année 2026 où il a clairement passé un cap, on l'a vu, au point d'être adoubé par les grands noms du tennis ibérique.
Et bah justement, on parlait de Raphaël Nadal, tu évoquais Carlos Alcaraz. Il s'est exprimé, Carlos Alcaraz, lui qui a joué d'ailleurs avec Rodard en tant que partenaire d'entraînement en Coupe Davis ou encore à Melbourne cette année. Et il a dit, Rafa, en parlant évidemment de Rodard, est un grand joueur, ça ne fait aucun doute doute en mettant, il a mis également en avant les valeurs qu'il porte, parce que Rodar, c'est aussi ça, une humilité qui marque les esprits. On peut aussi citer Alex Correia, qui dit de lui qu'il est humble, travailleur, très bien éduqué, la tête sur les épaules. Le physique, tu en parlais Eric tout à l'heure, 1m91, la technique avec une qualité de frappe incroyable des deux côtés, au service également, et donc la mentalité pour Raphaël Rodar, toujours entouré de sa famille, avec notamment son père qui est aussi son entraîneur. Rodar a tout pour devenir un très grand joueur et bousculer la hiérarchie mondiale.
Eric, on en a parlé rapidement. L'objectif maintenant, c'est la place de numéro 2 espagnol, parce qu'Alcaraz est un petit peu l'arbre qui cache la forêt quand même.
Oui, c'est vrai qu'ils ont ils souffrent un peu. On fait pas très attention au classement ATP quand on a un numéro 1 mondial. Ouais. Mais c'est vrai que derrière, il y a des mecs qui vont prendre leur retraite. Je pense à Bautista Agut, on le salue, Roberto. Mais
et Carreno Busta aussi qui sont
Carreno
aux portes.
Carreno Busta, il va bientôt mettre le clignotant, ouais, Pablo. Même si les mecs s'accrochent, tu vois, ils sont tableaux à Roland, ils vont gagner des points dans des challengers, c'est admirable. Mais pour revenir sur son parcours, ça fait penser un peu à Shelton, qui lui aussi avait fait une ou peut-être deux années de fac, puis à un moment, tu t'arrêtes, parce que t'es trop fort pour perdre du temps, perdre de l'argent aussi, parce que mine de rien, tu sens que tu peux très vite gagner de l'argent. Donc, même si le système universitaire a évolué, qu'il accorde un peu des bourses aux joueurs, mais voilà, il n'aura fait qu'un an, quoi. C'est ça qui est dingue, il a fait son trou très vite. Et c'est ça qui est impressionnant, parce que d'habitude, on a l'exemple d'Arthur Rinderknecht, tu fais 4 ans, quoi. Tu fais 4 ans, tu as ton diplôme. Il n'y a pas besoin de diplôme, il se lance à fond et ça marche très vite.
Eric, on est quand même sur un phénomène un peu atypique entre son parcours, son physique, sa personnalité. On est sur quelqu'un qui dénote un peu de ouais. ce qu'on peut voir habituellement sur le circuit mondial.
Ouais, parce qu'il est très silencieux sur un court. Hein. Ouais. C'est pas Rafa, c'est pas Carlitos.
Il me fait penser à Sinner un peu.
Il y a un côté Sinner. Alors, physiquement, j'ai cru voir Fritz aussi un peu. Tu sais, cette grande dégaine, on a l'impression qu'il a pas de muscles. Mais il va progresser physiquement, parce que là... On l'a vu contre Arthur, il crampait à la fin. Donc ça, c'est un signe que, et heureusement, quelque part,
oui,
il crampait.
Il est humain.
Sinon, c'est très inquiétant. Non, mais voilà, il a une marge de progression qui est énorme. Mais ouais, il y a du Fritz. Il y a du Sinner aussi. Alors, il n'est pas né dans les montagnes, non,
Non.
Mais ouais, dans sa manière de gérer les moments chauds, ouais, il est ultra concentré, il ne s'égare pas. Il est presque pas espagnol, j'ai envie de dire.
Oui, c'est un peu ça. On en parlait en antenne avec Eric. C'est vrai que ce physique 1m91, c'est un joueur de tennis finalement moderne, très moderne. Ouais. À la Zverev, un peu dans le physique aussi, très grand.
Ouais, ouais.
Il a un énorme service. Il frappe fort. Il varie peu. C'est aussi ça la différence avec Carlos Alcaraz. Mais on parlait de la place de numéro 2 espagnol. On parlait tout à l'heure de Davidovich Fokina, bon, qui ne gagne pas un tournoi, mais qui est 24e. Il y a Raume Munar qui est 38e. Il est juste derrière. Il a un potentiel. Sans manquer de respect évidemment aux deux hommes cités, qui est bien plus élevé qu'eux, un talent en tout cas, un tracé qui est bien plus élevé, on se dit qu'on n'est pas à l'abri d'avoir encore deux Espagnols dans le top 10 très rapidement. La dernière fois qu'il y a eu deux Espagnols, je te donne les noms, c'était juste Carlos Alcaraz et Rafael Nadal qui étaient dans le top 10. Ouais. Mais voilà, au moins l'Espagne attend ça aussi.
J'attends de voir quand même, parce que je suis pas sûr que sur gazon, faut les bouger. Hein, même si, ouais, il est très léger. Je crois qu'il fait l'ATP l'annonce à 70 kilos. Bon,
oui.
On ne sait pas. Hein, ça se trouve, il s'est pas pesé depuis 6 mois. Mais j'attends de voir. Puis j'attends de voir comment il va gérer Madrid à la Carrera Magica, parce que là, il va être très attendu. Je pense que Feliciano López va le programmer sur le central. J'attends de voir. Même s'il semble avoir la tête sur les épaules, il a montré de belles choses à Barcelone, mais là, un Masters 1000, c'est quand même l'échelon supérieur, quoi. Tout de suite, je me souviens plus de son tirage. Je crois qu'il joue deux jongles au premier tour. Le tirage a été fait ce lundi. J'attends de voir. Puis derrière, il a un gros. Mais attention, parce qu'on a vite encensé Fonseca. Et
bien sûr.
Fonseca, ça prend du temps.
C'est la même génération.
Ça prend du temps.
On va le suivre de très près. En tout cas, Eric, toi, tu vas le suivre encore plus près que nous, au bord des cours,
faire
très rapidement.
Arthur Fils, je ne sais pas pourquoi.
Oh, étonnant.
Je suis les deux.
Eric, merci. Je sais que c'est compliqué pour toi de faire un format aussi court, donc je te remercie grandement.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Tu as été très efficace. Bravo. Merci, Johan. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce nouveau portrait de la semaine.
J'ai une anecdote.
Vas-y,
Eric.
On fera ça dans un podcast annexe. On vous le répète, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à donner nous 5 étoiles, laissez-nous des commentaires, ça nous aide évidemment à nous développer. On se dit à très vite pour un nouveau portrait. Bonne semaine à tous.
RMC, cours numéro 1.